VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Une première attaque d'une église au Burkina Faso en proie à des attaques djihadistes récurrentes a fait 5 morts dimanche à Silgadji, c'est à 60 km de Djibo, chef-lieu de la province du Somme dans le nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires et locales. Des individus armés non identifiés ont attaqué l'église protestante, tuant 4 fidèles et le pasteur principal, au moins 2 personnes sont portés disparus, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a demandé au président Félix Tshisekedi de démissionner. Monsieur Fayulu, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle du 30 décembre dernier, a dit dimanche à Kinshasa lors d'un meeting devant plusieurs milliers de personnes venues l'écouter après un mois et demi de tournée à l'étranger. Il a annoncé par ailleurs des actions de grande envergure dans le pays à partir du mois prochain qui lui permettront, je cite, de récupérer sa victoire. Le point avec Thierry Kaboudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes venus demander à Félix Tshisekedi de démissionner, a dit d'un ton ferme Martin Fayulu devant plusieurs milliers de militants de la coalition Lamuka qui l'ont accompagné de l'aéroport international de Ndjili à la place Sainte-Thérèse pour la tenue de son meeting. L'opposant, qui se considère toujours vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier, accuse le président Félix Tshisekedi d'avoir dépensé en 3 mois le budget annuel de la présidence de la République et d'avoir vidé les réserves de la Banque centrale du Congo. Concernant l'accord qui lie Tshisekedi à Kabila, Martin Fayulu affirme que le président de la République a vendu le pays à Joseph Kabila. Félix Tshisekedi nous a fait la honte. Il a vendu le pays à Kabila. Ce Kabila qui est venu pour déstabiliser la République démocratique du Congo, a-t-il souligné, exigeant de ce fait la publication par Félix Tshisekedi de l'accord FCC-CACH. Martin Fayulu a par ailleurs annoncé pour le mois de mai prochain des grandes actions de terrain au pays comme à l'extérieur pour contraindre Félix Tshisekedi à la démission. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement consulte en vue de l'élaboration d'un programme de développement à l'horizon 2035, année à laquelle le pays souhaite devenir un pays émergent. Parlementaires et partenaires techniques et financiers du Cameroun viennent d'apporter leur contribution pour le compte de la phase 2 de cette vision de développement à long terme, nous dit à Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jelinta.
Les sénateurs et députés ont présenté au gouvernement les priorités de l'heure pour doter le Cameroun d'une bonne vision du développement en 2035. Des priorités à implémenter, selon les parlementaires, dans les 10 régions du pays dès le 1er janvier 2020, date du démarrage de la phase 2 de planification du développement du Cameroun.
Nous voulons la santé, l'éducation, les routes soient uniformes sur tout l'étendue du territoire.
Pierre Mbatou, député du RDPC. Le parti au pouvoir.
Nous voulons industrialiser. Nous ne pouvons pas industrialiser si nous n'avons pas d'électricité.
Selon le chronogramme du gouvernement, ces priorités doivent être atteintes entre janvier 2020 et décembre 2027 pour faire accéder le Cameroun au statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Une projection de développement économique sur laquelle le député Joshua Oshi du SDF, un parti de l'opposition, émet quelques réserves.
Il faudrait voir comment est-ce que on peut réfléchir à faire en sorte que la deuxième phase, qu'on peut doubler d'efforts ou tripler d'efforts pour pouvoir rattraper le retard.
C'est en 2010 que la phase 1 de la vision de développement pour l'émergence du Cameroun en 2035 a débuté. Elle s'achève le 31 décembre prochain. Cette phase a visé sur 2 objectifs, la modernisation de l'économie et l'accélération de la croissance. Jean-Louis Mama, sénateur du RDPC.
Nos populations ressentent dans leur vie un changement plutôt très positif en ce moment. Nous pourrons parler de cette croissance.
Le taux de croissance du Cameroun est de 3,9% en 2018. Le taux de chômage est à moins de 7% et l'inflation maintenue en dessous de 2%. Le tout dans un contexte de crise sociopolitique et économique dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Un tableau qui, selon les partenaires techniques et financiers du pays, démontre que de nombreux défis restent à relever au cours des 7 prochaines années.
Le grand défi défi de cette prochaine phase, c'est d'assurer une croissance qui symbolise quelque chose qui est senti par tous.
Alegria Maria Baouchi, coordonnatrice du système des Nations Unies au Cameroun.
On a parlé évidemment de jeunes et de femmes. Comment impliquer la majorité de la population du Cameroun?
C'est le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui coordonne ces consultations en vue d'élaborer la vision du développement du Cameroun en 2035. Alamine Ousmane Mé, ministre du tutelle.
L'approche contributive, participative, inclusive est une approche qui a le plus de chances de garantir l'appropriation des acteurs à la base, l'appropriation des intervenants dans l'appareil institutionnel pour la mise en œuvre des politiques. Nous aboutirons à un document qui rencontrera la satisfaction des populations à la base.
Les prochaines consultations nationales vont concerner le monde scientifique, professionnel et le secteur privé. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Et il faut s'attendre à une détérioration de la situation humanitaire déjà grave dans la région de Tripoli en Libye, en proie à des combats depuis le 4 avril, a déclaré à l'AFP Maria do Valle Ribeiro, l'adjointe à l'émissaire de l'ONU en Libye. Depuis le 4 avril, au moins 278 personnes ont été tuées et 1332 ont été blessées selon l'Organisation mondiale de la santé. Et des raids aériens sur Tripoli menés samedi soir par les forces de Khalifa Haftar qui mènent une offensive militaire pour conquérir la capitale libyenne ont fait 4 morts et 20 blessés, ont annoncé dimanche les autorités du gouvernement d'Union nationale.
Nos infos sur voaafrique.com.
Les élections législatives en Espagne ont donné leur verdict. Le premier ministre socialiste Pedro Sanchez a remporté dimanche les élections, mais devra, faute de majorité absolue, chercher des alliés pour gouverner un pays divisé où l'extrême droite va entrer au Parlement plus de 40 ans après la fin de la dictature de Francisco Franco. Les détails avec Michel Joseph.
Après le dépouillement de 99% des bulletins de vote, le Parti socialiste a recueilli près de 29% des voix et 123 députés, nettement plus que les 85 remportés aux législatives de 2016, mais loin de la majorité absolue de 176 sur 350 à la Chambre. L'ascension du parti d'extrême droite Vox, qui rafle 24 sièges, a reflété la montée des formations anti-système à travers l'Europe, avec pour effet de scinder les votes à destination de la droite et de favoriser la prise de pouvoir du Parti socialiste. Pedro Sanchez, arrivé au pouvoir en juin dernier en renversant le conservateur Mariano Rajoy dans une motion de censure, sera donc obligé de bâtir une coalition difficile pour continuer à gouverner. Pedro Sanchez pourra compter sur l'appui de Podemos, parti d'extrême gauche qui remporte 42 sièges contre 67 en 2016, mais devrait avoir besoin de celui de partis régionalistes et donc, a priori, des indépendantistes catalans. La Catalogne, où les séparatistes ont déclenché en 2017 la pire crise politique qu'ait connue l'Espagne en 40 ans, et qui continue à hanter la politique espagnole.
Merci Michel Joseph. Des milliers de délégués venus de tout l'Afghanistan ont entamé lundi à Kaboul une Loya Jirga. C'est une grande assemblée tenue sous très haute sécurité afin de discuter des efforts des États-Unis pour parvenir à un accord de paix avec les talibans. Plus de 3000 politiciens, responsables religieux, dirigeants communautaires et autres membres de la société civile ont été invités pour cet événement qualifié de plus massif de l'histoire moderne afghane. Le gouvernement d'Ashraf Ghani espère que la Jirga définira les conditions de Kaboul pour tout accord, notamment le maintien de la constitution et la protection des droits des femmes, des médias et de la liberté d'expression. Le message lancé aujourd'hui à l'ouverture d'une réunion mondiale sur la biodiversité est clair. La destruction de la nature menace l'homme au moins autant que le changement climatique et mérite donc autant d'attention pour éviter des impacts dévastateurs. Scientifiques et diplomates de plus de 130 pays sont réunis jusqu'à samedi pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans, un sombre inventaire de la nature vitale pour l'humanité. Le groupe d'experts a travaillé pendant 3 ans sur un rapport de 1800 pages qui devrait devenir la véritable référence scientifique en matière de biodiversité, comme le sont ceux du GIEC pour le climat. Et puis, l'ancien vice-président américain Joe Biden, l'un des favoris démocrates dans la course à la Maison-Blanche, sera aujourd'hui à la rencontre des travailleurs et des syndicats, premier acte de terrain de la longue campagne pour l'investiture de son parti. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.